Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, libre propos, l'émission hebdomadaire de Radio Grand Ciel qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, bonjour Simon.
Bonjour à toutes et à tous, et puis il est encore temps de vous souhaiter un joyeux Noël.
Un très joyeux Noël à tous les auditeurs de Radio Grand Ciel, parce que c'est une très belle fête, souvent qui a une dimension familiale, amicale, en tout cas un temps de repos et de pause très joyeux. Oui.
On peut le souhaiter combien de temps, joyeux Noël ?
D'abord, il n'y a pas de durée, parce que quand on aime, on peut donner. Mais l'Église fête ce qu'elle appelle l'octave. Ça veut dire 8 jours. Pendant 8 jours, donc du 25, 8 jours où la liturgie, nos célébrations sont totalement celles de Noël. Quoi. On reprend les mêmes psaumes le matin, on reprend les mêmes prières, parce que c'est une joie qui se continue 8 jours. Voilà.
Ouais. Alors évidemment, on va parler de la nativité, qui est, on va dire, une révolution dans l'histoire de l'univers. Puisque Dieu se fait homme, et moins qu'homme encore, il se fait enfant, tout à fait démuni et vulnérable. C'est extraordinaire, c'est un phénomène extraordinaire.
C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la nativité, on peut en parler plus après, mais c'est vraiment un moment charnière de la vie de l'homme, puisque toute l'humanité, depuis son origine, est saisie par cette venue d'un sauveur, qui veut pour elle, justement, la paix, le salut éternel. Et le paradoxe, c'est que cette venue, elle se fait dans un lieu inconnu, Bethléem, par une famille pauvre, ignorée de tous. La maman s'appelle Marie, le père s'appelle Joseph. Donc c'est en rien un événement qui, aux yeux du monde, est éclatant. C'est au contraire un moment, la nativité, qui va être réservée aux petits, aux pauvres, notamment les fameux bergers de Bethléem, qui sont souvent des parias à l'époque. Hein. Les bergers, il faut imaginer, ils ont quelques brebis et moutons, ils vivent dans des grottes à l'abri des rochers, ils n'ont sûrement pas une vie très aisée, ils sont plutôt à la marge, quoi. Et c'est eux que les anges vont venir chercher pour qu'ils bénéficient en premier de cette contemplation d'un enfant qu'on appelle l'enfant Dieu. Alors ça, on peut l'expliquer un peu plus si c'est important pour nos auditeurs, mais voilà, c'est ce grand mystère de nativité, c'est à la fois le tout et le tout dans le petit, quoi.
Oui. Rappelons que dans l'Ancien Testament, c'est le tout-puissant Dieu. Et là, il est le tout faible, tout...
C'est ça, le grand mystère pour nous, c'est que Dieu unique est un Dieu tout-puissant par qui tout fut créé, le monde et tout ce qui existe à travers ce processus très long de la création de naturelle, on peut dire, à travers ces milliards d'années, pour aboutir à l'homme. Et cet homme doit découvrir cette présence d'un Dieu unique et père. C'est loin d'être évident, parce qu'à l'époque, les grandes cultures de l'époque sont toutes polythéistes, elles imaginent des dieux et des esprits partout. Et donc cette présence d'un Dieu unique a été longue, elle passe par une révélation que Dieu fait à un petit peuple, le peuple hébreu, mais qui, sans arrêt, va tromper son Dieu, ne va pas comprendre parce qu'il est tenté par les grandes divinités de ces peuples païens qui les entourent, et ultimement, n'étant pas entendu malgré les prophètes envoyés et les messages que l'Esprit donne à certains, la toute-puissance de Dieu va se manifester en se faisant infiniment proche de l'homme. Alors que Dieu est l'infiniment, on pourrait dire, éloigné, par nature, il est Dieu et nous sommes que des êtres humains, eh bien Dieu se fait d'un seul coup tout à fait proche en choisissant de venir en une femme. Comment ? Bien, c'est la parole de Dieu, le Verbe divin qui descend dans cette femme, qui parle à son cœur. Cette femme accepte de dire que tout soit fait selon ta parole, Seigneur, et elle devient enceinte de cet enfant par l'œuvre de l'Esprit-Saint, sans qu'il y ait un père naturel. Ouais. Là, on pourrait dire comment c'est possible. Si Dieu est Dieu, Dieu peut. Hein. Ouais. Sinon,
il faut rappeler le scandale. C'est un scandale, je veux dire.
C'est un scandale pour ceux qui pensent trop avec leur tête, qui n'ont pas conscience que Dieu est infiniment grand et qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc il peut venir en une femme de cette façon-là, s'abaissant à être proche de l'homme, Et Jésus va naître pour nous parler directement, ce qu'il fera dans sa vie publique à l'âge de 30 ans. Voilà. Et donc Noël, c'est une fête qui rappelle cette nativité, donc cette naissance dans une grande pauvreté, puisque ce couple est en migration pour des raisons légales. Il y a un recensement voulu par l'empereur, donc ils doivent se déplacer à Bethléem. Et là, personne n'accueille, donc ils trouvent une sorte de grotte ou un espace protégé avec quelques animaux pour que cet enfant naisse dans une crèche.
Ouais. C'est un peu les migrants de l'époque, si j'ose dire.
Alors, ils vont être migrants par deux fois. On peut dire qu'ils sont migrants parce qu'effectivement, cette pérégrination par à Bethléem est quand même une certaine aventure. Mais après ça, on sait que le roi Hérode, Hérode qui était un tyran, on disait qu'il valait mieux être son cochon que son fils, parce qu'il avait fait tuer tous ses fils, pas ses cochons, parce qu'il craignait que ses fils, prenant le pouvoir, le tuent. Donc il avait fait assassiner sa famille, et Hérode, aussi vite qu'il apprend qu'un certain roi des Juifs serait né, envoie des gardes pour assassiner les enfants qui ont en gros moins de 2 ans. Entre-temps, Joseph, le père donc adoptif de l'enfant, a connaissance par un songe que Hérode menacera l'enfant, et part en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus tout petit. Donc ils partent en Égypte, chemin de migration lointain. Mais on peut dire qu'ils ont expérimenté la migration avant nous. Quoi. Ouais.
Alors la nativité, c'est un peu, la genèse de la Nouvelle Alliance, la genèse du Nouveau Testament, mais c'est aussi une histoire, pour moi, contemporaine. Je me dis que ce qui nous interpelle, c'est aussi la docilité de Marie, le fait qu'elle accueille sans réserve le Seigneur. Est-ce que ça, c'est pas pour nous aussi ce qui nous est demandé?
En fait, Marie est une femme, on peut imaginer qu'elle était enceinte et qu'elle était épouse de Joseph à l'âge de 14-15 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'adolescence, on était ou enfant petit, et une fois qu'on était apte à un travail certain, apte à avoir des enfants, on était marié donc très tôt. Mais Marie était déjà une femme profondément en Dieu. On appelle ça les Anaouim, hein, les pauvres du Seigneur, les gens qui sont vraiment confiants en Dieu, qui mettent leur foi dans la loi divine. Et à l'invitation d'un ange, Gabriel, qui la rencontre, de fait, elle est toute ouïe, donc elle est toute ouverte. Et c'est vrai qu'elle devient ce merveilleux modèle. Saint Augustin, un grand saint de l'Église, disait que Marie était plus disciple que mère, plus disciple que maman, parce qu'elle a été bien sûr pleinement mère, pleinement maman, mais elle a été surtout celle qui écoute la voix de Dieu, qui, d'une part, entre dans le projet divin totalement, et puis plus tard, elle dira à Cana, elle dira à des serviteurs, elle dira « Tout ce que Jésus vous dit, faites-le ». Donc c'est vraiment l'attitude même de la disciple, ou du disciple, on pourrait dire avant les apôtres, même si ceux-ci ont un rôle éminent, elle est profondément celle qui nous montre le chemin, l'exemple, et au bout du compte, l'éternité, le Père.
Ouais, et n'oublions pas Joseph, parce que Joseph fait preuve aussi d'une grande confiance. Il a été tenté de la répudier dans un premier temps, et puis non, il fait confiance à...
Joseph, on dit qu'il est l'homme juste. Alors l'homme juste, ça veut dire à l'époque l'homme qui est ajusté à la justice de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu? Eh bien, c'est de sauver par amour l'homme, quel qu'il soit. Donc Joseph est un homme profondément bon, aimant, mais c'est sûr, quand il découvre que sa femme promise, avec qui il ne vit pas encore, est enceinte, à l'époque, ça peut faire grandement scandale. Et la loi prévoyait que si Joseph ne reconnaissait pas cet enfant comme le sien, on lapiderait la femme devant la porte de son père. Donc c'était vraiment un pas dans la foi pour Joseph, et un ange va le conforter en disant « Prends Marie, c'est ta femme, et l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint, et tu pourras le nommer Jésus », ce qui veut dire « Dieu sauve ». Donc Joseph vraiment accueille, mais au départ cette réputation, elle n'est pas tant qu'il serait, comment dirais-je, qu'il serait en colère contre elle. Joseph a une confiance totale en cette jeune femme, qu'il aime sûrement profondément, mais le projet que Marie lui révèle, le projet divin que Marie porte en elle, fait de lui un homme troublé. et il se dit au fond, en quoi suis-je digne d'être associé à un tel projet? En quoi suis-je le bon père pour cet enfant s'il est de Dieu? Et quelque part, il préférerait se retirer en disant, je ne suis pas à la hauteur, en quelque sorte. Et c'est Dieu qui le confortera, et il sera ensuite ce protecteur, cet éducateur, jusqu'à lui apprendre, bien sûr, la vie d'un homme, à parler, à vivre, aussi son métier de charpentier, jusqu'au moment de la vie publique de Jésus.
Ouais. Alors Dieu qui épouse la condition humaine à travers la personne de Jésus, je me dis qu'il ne pouvait pas en être autrement. Parce que qu'est-ce que serait un Dieu qui finalement serait tout en haut des cieux, distribuant les bons et les mauvais points, s'il n'avait pas connu les affres de la condition humaine?
Oui, en quelque sorte, il ne s'est pas fait l'arbitre, Dieu. Il marche avec nous. Il marche à nos côtés, et même il nous prend dans ses bras. Hein. Il y a cette histoire qu'on raconte d'un homme qui était affligé par la vie et qui essayait d'être avec Dieu, mais qui finit par mourir et qui arrive au ciel et accueilli par Dieu, qui lui dit « Voilà, je t'ai accueilli, je t'ai même porté, regarde sur le sable, on voit nos traces de pas, les tiennes et les miennes. » Et puis, il arrive un temps où il n'y a plus qu'une seule trace et l'homme dit « Tu vois bien que tu n'étais pas là, je souffrais terriblement, ma vie était impossible et il n'y a qu'une trace de pas. » Et Dieu dit « Mais ce sont les miennes, je te portais dans mes bras, j'étais là pour te porter. » Donc Dieu marche avec nous, parfois nous l'oublions, et pourtant il est là.
Oui, Dieu ne nous oublie pas, mais nous parfois nous l'oublions, effectivement, nous vivons dans son absence. C'est nous qui sommes absents finalement.
C'est le grand drame de l'homme. Moi je pense que même notre société actuelle, pour faire un tout petit trait d'union avec ça, vit un mal-être qui est aussi un mal-être de l'absence de Dieu. Non pas qu'il soit absent, mais qu'on l'a exclu. On a fermé la porte et on a dit « Je vivrai sans Dieu, le monde contemporain est un monde avancé, scientifique. » De tout temps, on a fait ça d'ailleurs. Et je pense que cette absence de Dieu cause une souffrance et laisse l'homme seul. Ce que je regrette, car j'aimerais qu'il rencontre le doux visage de Dieu que Jésus manifeste.
C'est un joli souhait pour l'année qui s'annonce d'ailleurs.
Ah oui, je souhaite vraiment une très belle année à ceux qui nous écoutent 2019. Bien sûr, on sait que 2018 s'achève avec ces événements, les gilets jaunes, cette manifestation de gens en grande souffrance. Et qu'il faudra, aux tenants du pouvoir politique, un gros effort d'imagination pour répondre et s'approcher de ces personne en détresse. Maintenant, il me semble aussi qu'on a beaucoup de choses à retrouver, comme une fraternité entre nous, s'aider mutuellement. Là aussi, question, comment être des frères s'il n'y a pas un père commun, et qui est le père commun? Pour moi, bien sûr, c'est Dieu, mais je souhaite vraiment une belle année à tous ceux qui nous écoutent, et que même si les difficultés demeurent encore, j'espère qu'ils trouveront près de l'Église, dans les villages, les villes d'Eure-et-Loir, un soutien, un prêtre, des laïcs, des équipes qui sont là pour les écouter, les visiter aussi. Vraiment, bonne année en tout cas pour vous tous qui nous écoutez.
Merci, au nom de nos auditeurs, une excellente année, Monseigneur Christori. Simon, merci beaucoup. Merci, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.